Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Bonsoir à tous, nous voici donc dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Alors ce soir, le sujet c'est émission globale qu'on a vu les semaines passées et puis action locale, conséquences locales sur les émissions de carbone et équivalent carbone. Alors ce soir, on a deux invités, Antoine Trouche d'Air Parif qui est à nos côtés et puis on a aussi d'une manière un peu plus distante Alain Tsogen qui est responsable succo à Lomé au Togo, mais bon, on va vous faire une petite révélation, il n'est pas à notre côté mais on l'a enregistré parce que les liaisons sont quand même un petit peu compliquées pour pouvoir faire une interview en direct. Donc voilà, bon, écoute, on en parlera, on vous fera écouter son témoignage dans à peu près une demi-heure, mais d'ici là, on va parler avec Antoine Trouche des émissions parisiennes, des émissions de tout un chacun, comment on peut les mesurer, comment il les mesure. Voilà, bah écoutez Antoine, je vous cède la parole, dites-nous un petit peu, présentez-vous rapidement, puis dites-nous aussi ce qu'est Air Parif, c'est pas la liaison Paris je ne sais où.
Non, bah écoutez...
C'est pas une compagnie aérienne en tout cas.
Ah non, on n'est pas une compagnie aérienne. On serait très vexé qu'on nous considère ainsi. Donc, enchanté, merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle donc Antoine Trouche, je suis ingénieur, je m'occupe des relations presse et puis de la médiation scientifique à Air Parif. Alors, Air Parif, c'est vraiment une organisation un peu originale. En fait, dans les années 90, l'Union européenne a obligé tous les États de l'Union à surveiller la pollution de l'air sur tout leur territoire. Et du coup, dans la plupart des pays de l'Union, c'est une agence publique qui a eu cette charge-là. En France, on a décidé de faire autrement. On a décidé, à l'époque, de déléguer cette mission à une asso indépendante par région. Et du coup, en Ile-de-France, c'est Air Parif qui a été choisi. Donc Air Parif, c'est l'association qui est chargée de surveiller la pollution de l'air en Ile-de-France, d'évaluer l'efficacité des politiques publiques en matière d'amélioration de la qualité de l'air, aussi d'améliorer les connaissances sur la qualité de l'air. Il y a des polluants qu'on ne connaît pas encore très bien, les impacts sur la santé qu'on ne connaît pas bien, les sources qu'on ne connaît pas bien. Et dans tout ce travail-là, on fait ce qu'on appelle un inventaire des émissions de polluants de l'air. On va quantifier, source par source et zone par zone, les émissions de polluants de l'air en Ile-de-France. Et en faisant ce travail-là, en fait, on le fait aussi sur les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en fait, c'est un peu le même travail. Alors c'est un point hyper important à bien cadrer dès le départ, il ne faut pas confondre pollution de l'air et gaz à effet de serre. Là ce soir on parle de gaz à effet de serre, mais Air Parif, la plupart du temps, on parle surtout de pollution de l'air. Les polluants de l'air, c'est toutes les substances présentes dans l'air qui sont nocives pour la santé quand on les respire. Ça va être des gaz polluants, les oxydes d'azote, l'ozone de basse altitude, etc. Et il y a des particules solides polluantes, les particules fines, les particules ultra-fines. Les gaz à effet de serre, c'est des substances qui, pour la plupart, sont pas nocives pour la santé quand on les respire. Quand on respire du dioxyde de carbone, du méthane, du protoxyde d'azote, c'est pas nocif pour la santé. Par contre, ça s'accumule dans l'atmosphère, ça provoque une élévation des températures à l'échelle du globe, et ça entraîne un réchauffement climatique qui va avoir derrière tout un tas de conséquences désagréables pour la santé. Et donc du coup, une partie de notre travail, comme je disais, c'est répertorier ces émissions de gaz à effet de serre dans chaque collectivité d'Île-de-France, quantifier d'où elles viennent et du coup fournir ces données pour les collectivités, pour les citoyens.
Alors ma première question, c'est par rapport aux régions. Pourquoi c'est localisé ? Il n'y aurait pas une façon de travailler au niveau national ? Est-ce qu'on fait des grandes différences ? Est-ce que c'est dû à... Je sais pas, d'où vient cette frénésie de régionalisation sur un sujet pareil ?
Alors c'est une bonne question, c'est un choix très particulier à l'échelle de l'Europe, parce qu'on est vraiment le seul pays de l'Union européenne qui a fait ce choix-là. Je pense que l'idée, surtout à l'époque, c'était de se dire qu'une association indépendante serait plus indépendante qu'une administration publique. Voilà. Après ça se discute, ouais. Mais c'était l'idée à l'époque.
Et c'était quelle année déjà ?
Dans les années 90.
90.
En fait, Air Parif a 40 ans. Et on a été conçu dans les années 80, voilà. Et du coup, l'organisation entre associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air, c'est arrivé dans les années 90.
Bon, alors je vais poser ma question autrement, parce qu'on sait bien qu'en journalisme, quand la réponse est mauvaise, c'est que la question a été mal posée. Est-ce qu'il y aurait matière à homogénéiser tout ça, ou est-ce que c'est intéressant d'avoir des calculs par région ?
J'essaie de faire une réponse moins mauvaise. En fait, on travaille déjà à l'échelle de toute la France, parce que forcément, on doit travailler avec les associations de la région d'à côté, ne serait-ce que pour savoir quels sont les volumes de pollution qui sont transférés d'une région à l'autre. La pollution, elle se déplace toujours un peu. Pour qu'on puisse prévoir la façon dont ça évolue chez nous en Ile-de-France, il faut qu'on sache comment ça se passe dans les Hauts-de-France, en Normandie, etc., etc. Maintenant, il y a quand même une bonne raison à ce que ça soit un peu régionalisé, c'est que la pollution de l'air, elle est très variable d'un territoire à l'autre. Je donne un exemple, nous en Ile-de-France, le gros sujet de pollution de l'air, c'est qu'on a une agglomération très très dense, dans une surface géologique qui est plutôt de la forme de cuvette. Donc on a des émissions de polluants de l'air qui sont très importantes parce qu'on a beaucoup de population. On a quand même le boulevard périphérique qui est le principal axe de circulation européen. Donc forcément, ça joue un peu sur les émissions de polluants de l'air. Bon, la situation, elle est forcément différente quand vous regardez en Auvergne-Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, etc. Donc ça a du sens d'avoir des associations qui ont une connaissance vraiment très locale de où est-ce qu'il faut mettre des stations de mesure, comment on modélise la qualité de l'air vraiment dans la situation géographique spécifique et de météo spécifique de la région et d'accumuler cette connaissance, cette expertise au fur et à mesure des années dans une association locale.
Messieurs, je voudrais pas perturber votre débat régionaliste contre centralisme français. C'est vrai que...
C'est Paris.
C'est vrai que c'est Paris, et c'est vrai... Attends, tu peux louper. C'est vrai aussi que les années 90, c'était les années de la décentralisation, peut-être que c'était la mode. La question qui me préoccupe plus, effectivement, pourquoi une association plutôt qu'une administration, et puis aussi pourquoi si tard. Mais je dirais que ce sont des questions très importantes, mais qui nous éloignent un petit peu du sujet du moment, qui est quand même celle des gaz à effet de serre. Donc, en fait, Air Paris, vous qui savez mesurer les polluants, c'est plutôt des minéraux en particules, c'est plutôt du plomb, c'est plutôt effectivement des solides, même s'ils sont tout petits. Le gaz carbonique, pour le coup, c'est un gaz, ça n'a pas de masse bien précise. C'est quand même une autre logique. Et comment on peut passer de l'un à l'autre? C'est les mêmes méthodes de calcul, les mêmes enregistreurs?
Alors en fait, du côté des polluants de l'air, il n'y a pas que des polluants de l'air solides. Il y a vraiment deux types de polluants de l'air. Vous avez les polluants solides, donc les particules. Particules, c'est tout ce qui est solide qui fait moins de 10 micromètres de diamètre. Pourquoi 10 micromètres? Parce qu'en fait, au-dessus de 10 micromètres, c'est bloqué par les barrières du nez et de la bouche. Sous 10 micromètres, c'est pas bloqué, ça vient dans les bronches. Et c'est pas bon pour la santé. Et du coup, vous avez aussi plein de gaz polluants. Vous avez les oxydes d'azote, le dioxyde d'azote, vous avez l'ozone de basse altitude, vous avez des polluants avec des noms un peu plus exotiques, des dioxines, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Enfin voilà, vous avez plus de 200 polluants de l'air, dont tout un tas de polluants gazeux. Là, ce dont on parle, c'est comment est-ce qu'on connaît les sources d'émissions de polluants de l'air localement. En fait, on ne fait pas avec des capteurs. Ah. Les capteurs, on va surtout l'utiliser pour regarder ce qu'on va respirer dans l'air côté polluants de l'air. Concernant les gaz à effet de serre, ils restent très longtemps dans l'atmosphère. Donc, quand on regarde la concentration, par exemple, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, en fait, c'est du dioxyde de carbone qui a potentiellement été émis il y a 10 ans à l'autre bout du globe, donc ça ne nous renseigne pas bien sur ce qui se passe localement. Comment on fait pour savoir ce qui se passe localement? On réalise des inventaires d'émissions. La première étape, ça va être de quantifier toutes les activités qui sont susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre sur la collectivité. Donc, par exemple, on va se renseigner avec des boucles de comptage automatisées sur le nombre de véhicules qui circulent partout dans la collectivité. On va se renseigner sur le type de véhicule en circulation. Parce qu'un vieux véhicule diesel, ce n'est pas la même chose qu'un véhicule essence récent ou qu'un véhicule électrique ou qu'un train, je dis n'importe quoi. On va faire pareil sur le chauffage. Donc sur le chauffage, on va faire des enquêtes. Donc alors c'est nous par des tiers, hein. Mais du coup on va demander aux gens ce qu'ils utilisent comme moyen de chauffage, on va se renseigner sur les volumes de gaz et de pétrole qui sont utilisés, qui sont vendus pour se chauffer en Ile-de-France, la quantité d'électricité consommée, etc. etc. Et je ne vous fais pas la même description, mais en gros c'est la même chose sur le trafic aérien, sur les activités agricoles, sur les activités de chantier, sur les industries. Les industries c'est un peu le plus simple parce que pour le coup les industries, il y a l'obligation de surveiller ce qu'elles émettent en sortie de cheminée. Donc là pour le coup c'est les données les plus précises qu'on ait. Et une fois qu'on a tout ça, on va transformer ces activités en émissions de gaz à effet de serre. Donc grâce à ça, on va utiliser des bases de données qui sont basées sur des travaux de recherche et qui disent tel véhicule de tel âge, qui est alimenté avec tel carburant, qui a tel système de dépollution, sur un kilomètre, en moyenne, il émet tant. Et comme on connaît le nombre de kilomètres qui a été parcouru heure par heure par ces véhicules à Paris, je dis à Paris, mais c'est partout en Ile-de-France, dans chaque collectivité, derrière, on est capable de reconstruire, d'évaluer quelle est la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui est émise par chacune des activités sur une période donnée. Donc nous, on fait des bilans tous les ans, mais ça pourrait être sur 6 mois, etc., etc.
Alors quand vous dites « nous », ça représente quoi ? C'est combien ?
C'est qui ?
C'est qui ?
Nous, Air Paris ?
Oui !
Alors, nous, Air Paris.
Je voudrais juste avoir
le panorama de cette organisation tentaculaire. Alors, Air Paris, c'est une association de 70 personnes, un peu plus, 72 personnes. Et du coup, dans Air Paris, c'est très majoritairement des techniciens et des ingénieurs. Parce qu'on a notamment toute une équipe de techniciens qui sont indispensables parce que c'est eux qui s'assurent qu'on ait des stations de mesure, donc qu'on n'utilise pas pour mesurer les gaz à effet de serre, enfin, on en mesure un peu mais c'est plutôt à des fins de recherche, c'est pas quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours, surtout pour mesurer la présence des polluants de l'air, donc savoir ce qu'on respire de nocif pour la santé humaine. Et du coup ces stations de mesure là, elles disposent d'appareils réglementés qui sont très fiables mais par contre qui doivent être maintenus régulièrement. Et donc, on doit avoir des techniciens très compétents qui s'assurent qu'ils fonctionnent correctement, de les installer au bon endroit, etc. Et du coup, il y a toute une équipe d'ingénieurs qui, eux, vont plutôt, je fais des gros généralités, hein, mais qui vont s'occuper de mettre en place des dispositifs de modélisation, d'un côté. Donc, ils vont regarder comment se disperse la pollution de l'air une fois qu'on l'émet quelque part. Qui vont regarder, qui vont faire le travail que je vous décrivais auparavant, qui vont quantifier les émissions de polluants de l'air collectivité par collectivité. Et la dernière équipe d'ingénieurs, c'est ceux qui vont s'occuper d'évaluer l'efficacité des politiques publiques. Je donne un exemple, il y a la zone à faible émission qui a été mise en place dans la zone francilienne. Donc on interdit à la circulation les véhicules les plus vieux, parce que c'est aussi les véhicules les plus émetteurs de polluants. Et donc du coup, nous, on est chargé de dire, bah voilà, est-ce que c'est efficace ou pas, et sous quelles conditions c'est efficace, et quand est-ce que ça va être efficace, etc. Un point de détail important, c'est que nous, on est une association qui ne fait pas de prescription politique. C'est un peu étonnant pour une association écolo. Nous, on est vraiment là pour mesurer les niveaux de pollution de l'air, pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre et de polluants de l'air, pour dire ce qui marche, ce qui ne marche pas en termes de politique publique. Mais nous, on ne va jamais dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est la limite de notre mission.
Moi, j'ai deux petites questions. J'ai une, qui sont les membres d'Air Paris. C'est une association, donc il y a des adhérents. C'est toi, non ? Tu n'y es pas, Ben ?
Non, je ne suis pas membre.
Bon, voilà.
On ne m'a jamais demandé d'adhérer.
Tu n'as jamais proposé non plus. Ok. Et puis la deuxième question, ce sera, et combien on aimait quand même, puisque c'est un peu le sujet du moment. Alors, on va déjà satisfaire ma petite curiosité, et puis après, on passera à toutes ces tonnes de CO2 et puis d'équivalent CO2.
Alors, Air Paris, c'est qui les membres ? Concrètement, on a 4 collèges au sein du conseil d'administration d'Air Paris. Et chacun de ces collèges a un quart des voix. Donc le premier collège, c'est un collège de représentants de l'État. Le second collège, c'est le représentant des collectivités d'Île-de-France. Vous avez la ville de Paris, la région, etc. Le troisième collège, c'est un collège de représentants des entreprises présentes en Île-de-France. Et le quatrième collège, c'est un collège de représentants d'organisations écologistes. Alors, il n'y a pas qu'eux, il y a aussi des médecins épidémiologistes. Mais donc, on a France Nature Environnement, par exemple. Il me semble qu'on a les Amis de la Terre. Donc, voilà. Donc, en fait, on a ces 4 collèges qui représentent, en fait, tous ceux qui ont des préoccupations vis-à-vis de la pollution de l'air. Soit parce qu'ils sont émetteurs, comme les entreprises, soit parce qu'ils font en sorte de représenter les citoyens qui sont préoccupés par la pollution de l'air, soit parce qu'ils représentent les pouvoirs publics qui sont chargés de mettre en place les réglementations adaptées pour...
On va dire que c'est quand même une association un petit peu structurée, c'est pas l'association du coin, quoi.
Exactement, on est une association particulière, on est une association qui est reconnue par l'État et qui est chargée de surveiller la pollution de l'air en Île-de-France.
Okay. Mais donc bon, ça veut dire... néanmoins, il y a quand même une pluralité, il y a moyen de débattre, il y a moyen de se faire entendre, le citoyen peut avoir ses représentants, ou du moins il peut connaître la porte d'entrée. Quoi.
Il y a plein d'intérêts contradictoires au sein du conseil d'administration d'Air Paris. Je ne donne qu'un exemple. On a par exemple d'un côté une association écologiste Respire qui a intenté un procès à un autre membre du conseil d'administration d'Air Paris, la RATP, concernant les enjeux de pollution de l'air dans le métro. Donc voilà.
Manifestement, c'est une arène écologique. On peut aller se bagarrer dedans, quoi.
Oui, alors le but, c'est pas forcément de se bagarrer, mais en tout cas, c'est vraiment de faire en sorte de rassembler tous ceux qui s'y intéressent et qui veulent agir face à la pollution de l'air.
D'accord.
Bon, qui ne sont pas forcément d'accord.
Et je vous confirme, ils ne sont pas forcément d'accord.
Bon, alors ça c'est bien. Donc effectivement, on est dans le sujet, on est bien dans les arènes de l'écologie. Alors maintenant, sur ces fameuses émissions, qu'est-ce que ça donne ? On émet en Île-de-France... On parle de toute Île-de-France Air Paris ou on parle uniquement de la partie aglo ?
Alors, nous, on parle vraiment de toute l'Île-de-France, toute la région Île-de-France. Après, les données qu'on produit, on les produit sur toute l'Île-de-France, sur
donc,
Paris, sur tous
donc
les pays.
Donc, on parle de 12 millions d'habitants, quoi.
Exactement, on parle de 12 millions d'habitants. Alors, quand on regarde un peu ce qu'on émet vraiment localisé en Île-de-France, la principale source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le trafic routier, c'est les véhicules thermiques. Les véhicules thermiques, en gros, c'est un tiers, c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France. Donc là, je parle vraiment des émissions qui, physiquement, ont lieu en Île-de-France. Et on va prendre en compte aussi les émissions qui sont indirectement liées à la consommation d'électricité qui est potentiellement produite hors Île-de-France et qui est consommée en Île-de-France. C'est quand même l'Île-de-France qui est responsable de. La seconde principale source d'émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France, c'est le chauffage au gaz. Chauffage au gaz fossile, bah, quand on le brûle, ça émet des gaz à effet de serre. Le troisième principal source d'émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France, c'est le chauffage au fioul. Parce que le chauffage au fioul est aussi un moyen de chauffage émetteur de gaz à effet de serre. Il y a quand même beaucoup moins de chauffage au fioul que de chauffage au gaz hein, en Île-de-France. Et la quatrième principale source d'émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France sont les activités industrielles, qui émettent un peu plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Alors le tertiaire, je l'ai mis dans les chauffages gaz et fioul. C'est-à-dire d'accord, que quand je parle d'accord. de chauffage gaz et fioul, c'est chauffage résidentiel et tertiaire. Voilà.
D'accord, donc ça nous fait tout de même un poste habitat, logement et tertiaire qui est dominant.
Tout confondu, c'est le chauffage résidentiel et tertiaire qui est le principal émetteur de gaz à effet de serre.
Alors par contre, moi, j'avais été fouiné dans vos chiffres l'autre fois. Alors effectivement, le logement était le premier poste d'émission il y a 20 ans maintenant, en 2005. Mais on s'aperçoit que le transport, le logement a baissé relativement d'une manière non négligeable. De mémoire, ça a baissé de 20%. Tandis que le transport... Non, ça a baissé de 36%, tandis que le transport routier n'a baissé que de 20% en termes d'émissions. Alors déjà, on peut être surpris quand même qu'en 20 ans, on ait diminué les émissions de gaz à effet de serre. Et puis deux, ce qu'on s'aperçoit, c'est quand même c'est cette importance du transport routier qui est loin de réduire autant que les autres secteurs. Donc c'est en termes de priorité, je ne sais pas si on est bien conscient de tout ça. Avant de regarder vos chiffres, très honnêtement... Je ne veux pas imaginer. Bon, je me doutais bien que les voitures polluaient beaucoup, donc émettaient beaucoup, mais de là à ce que ce soit aussi constant, alors que d'autres secteurs font des progrès, c'est quand même un peu surprenant.
Alors, en gros, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, elles ont baissé, tous secteurs confondus, d'à peu près. Donc là encore, je parle bien de toutes les émissions qui sont émises en Île-de-France. Hein. Un point très important, je ne suis pas en train de parler des émissions dont sont responsables les habitants d'Île-de-France. Si jamais en Île-de-France, on consomme une alimentation qui est produite hors Île-de-France, nous, on ne compte pas. On peut en parler un peu après, mais là, le but, c'est de fournir des données, notamment pour les collectivités, pour pouvoir regarder ce qui est émis en Île-de-France. Et donc, effectivement, quand on regarde un peu les sources d'émissions, on voit qu'en moyenne, le chauffage a baissé ses émissions plus vite que le trafic, pour une raison assez simple, c'est que quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, tant qu'on reste sur des véhicules thermiques, même quand on compare un vieux véhicule à un véhicule récent, les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas beaucoup. D'accord. Pour faire baisser de façon conséquente les émissions de gaz à effet de serre du trafic, il faut soit passer à des véhicules électriques, soit à des transports en commun.
Antoine, j'ai été obligé de vous arrêter parce qu'on va lancer la musique. On reviendra sur ce sujet pour voir effectivement, mettre le doigt sur là où ça fait mal ou là où on aimait, quoi, essayer de boucher les trous après notre petit tour en Afrique.
La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches, Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y'a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
É que a situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, é lua cheia. O seu perfume é da Gino de Paris. Você torce pro PSG. Aí o que falta pra tu ser feliz? Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia, e cair na gandaia, nas ondas do amor.
Allonger la tête dans les nuages, la nuit est bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile, oh, peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse. Où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter.
Eh bien, vous êtes toujours dans les arènes de l'écologie, ce soir avec Alain Tsopé, qu'on va entendre depuis Lomé, et puis Antoine Trouche, qui vient de nous expliquer ce qu'était Air Paris, et avec qui on va revenir tout à l'heure sur les émissions, comment on pourrait essayer d'éviter d'en émettre autant. Donc, voilà, on va faire un petit tour en Afrique. Donc à Lomé, où j'ai rencontré hier matin Alain Tsogen grâce à Google Meet, on va les citer, hein, tant pis. Hein. Et donc il va nous parler des conséquences du réchauffement climatique et plus particulièrement du bouleversement climatique en Afrique, en zone intertropicale. Vous allez voir, c'est un peu surprenant, ça nous change nos réalités européennes. Donc, écoute, Alain, donc Alain s'occupe de l'association Succo.
Alors, merci beaucoup. Au fait, je m'appelle Alain Thiogbé. Oui. Je suis conseiller en environnement et j'appuie ce qu'on appelle les fonds INNOV ici au Togo dans le cadre du programme de coopération volontaire canadien. Alors, je suis un spécialiste en environnement et je suis originaire du Togo et je suis canadien à la fois.
Vous avez fait vos études au Canada?
Oui, j'ai fait les sciences de l'environnement au Canada. C'est Solidarité Union Coopération, une ONG canadienne, comme vous venez de le souligner. On a trois domaines d'intervention, la protection de l'environnement, le droit et la participation des femmes et l'égalité des genres. Et nous sommes actuellement en train d'aller vers les systèmes alimentaires viables. Voilà un peu les activités que nous menons sur le terrain ici au Togo.
Changement climatique au Togo, quelles sont les réalités?
Alors, les changements climatiques au Togo, on a juste l'exemple de la diminution des précipitations.
Oui.
Si on prend juste l'exemple des précipitations, ça résume vraiment les impacts des changements climatiques au Togo. Nous avons deux petites saisons pluvieuses. Et ces saisons pluvieuses sont en train de disparaître au Togo. Donc, on a une saison pluvieuse plus grande et l'autre qui est plus petite, mais la petite saison pluvieuse est en train de disparaître carrément à cause des changements climatiques. Donc, les paysans ne se retrouvent plus par rapport à leur calendrier agricole, ce qu'on appelle le décalage des saisons. Donc, des inondations récurrentes. Et si vous venez au Togo, vous allez remarquer que toute la côte, l'érosion côtière est quand même une réalité au Togo. Donc, il y a des villages entiers qui sont obligés de disparaître, des déplacements de population sur les côtes. Et le phénomène le plus marquant, c'est la salinisation des eaux souterraines. C'est-à-dire que les nappes phréatiques sont constamment contaminées par l'eau de mer. Il y a de l'infiltration de l'eau de mer dans les nappes phréatiques, alors que ces nappes sont très sollicité pour l'irrigation. Donc, l'eau que les agriculteurs utilisent pour l'irrigation est une eau à forte teneur en sel.
Et ça, donc, c'est récent.
Le phénomène s'accentue au fil des années ici au Togo. Donc, la teneur en sel s'accroît. Donc, l'eau des nappes devient de plus en plus salée à cause de la diminution des précipitations parce que les nappes ne sont pas rechargées à cause de déficits pluviométriques. Et ça, c'est quelque chose qui a un impact considérable sur le secteur agricole.
Donc, vous êtes moins affecté, en fait, par l'augmentation de la température que par le bouleversement du régime des pluies, quoi.
Je pense... Non, au fait, il y a quand même une augmentation de la température, oui, mais l'impact le plus significatif, c'est la rareté des pluies, le décalage des saisons, tout le calendrier agricole est complètement bouleversé.
Et ça se traduit par quoi? Par des réductions de la production? Par la difficulté d'approvisionnement? Comment on perd
des... Oui, parce que l'agriculture togolaise est essentiellement pluviale. Il y a très peu d'irrigation. Donc, les déficits pluviométriques ont des impacts directs sur la productivité.
Et
donc,
c'est mesuré, c'est qui... ça? Vous pouvez nous donner un chiffre du genre, on a perdu X% de...
Quantifié?
Oui, quantifié.
Dans certaines littératures, on parle jusqu'à 30% de réduction de productivité. Donc, la chute des rendements jusqu'à l'ordre de 30%. Vous vous rendez compte, lorsqu'il y a déficit pluviométrique dans une agriculture pluviale, et l'impact est quand même significatif. C'est pas l'ordre de 10%, 15%, jusqu'à 30%. Ouais.
Alors, après, effectivement, les phénomènes de salinisation de la nappe et le réchauffement climatique, ça ne doit pas être simple à... Mais vous pourriez nous les décrire en quelques phrases?
Alors, juste pour faire court, lorsqu'il y a déficit pluviométrique, les nappes ne sont pas rechargées parce qu'il y a moins d'eau qui arrive pour recharger les nappes.
D'accord.
Donc, ce qu'on appelle le niveau piézométrique, c'est-à-dire que les nappes, le niveau s'abaisse, ce qui fait que l'eau de mer s'infiltre dans les nappes.
Ok, ben c'est un système de vase communicant.
C'est c'est comme un système de vase communicant. Du moment où il y a baisse du niveau de l'eau dans les nappes, ça se compense automatiquement par une infiltration de l'eau de mer sur les côtes.
Ok, ben ce n'est pas une vue d'esprit alors, ce changement climatique au Togo.
Non, c'est un défi majeur. Parce que l'agriculture est quand même 40% du produit intérieur brut. Donc, au moment où l'agriculture est affectée, ce sont toutes les couches sociales qui se retrouvent affectées par
Alors effectivement, 40%, je voyais qu'il y avait 60% de la population qui était rurale. Quels sont les moyens d'action? Comment vous allez pouvoir atténuer, vous adapter à ces changements? Puis c'est vrai, c'est quand même un peu mystérieux quand même. Pourquoi on a moins de pluie en zone équatoriale?
Oui, au fait, en termes d'atténuation, je pense que l'action est mise sur la divulgation des bonnes pratiques agricoles. Il faudrait mettre à la disposition des agriculteurs et agricultrices des semences adaptées aux nouvelles conditions climatiques, des semences à cycle végétatif court pour réduire un peu l'influence du climat sur le cycle végétatif. Donc, lorsque la phase de la floraison coïncide avec cette poche de sécheresse, ça a des impacts vraiment sur le rendement.
Alors nous, on connaît ça en France avec le maïs, qui est très impacté justement par la sécheresse, les épisodes de sécheresse au moment de la floraison. Vous cultivez quoi
Le maïs, le soja, le mil, le sorgho essentiellement. Et puis, vous connaissez l'igname certainement?
Oui, je connais, mais bon, j'en ai pas beaucoup mangé.
Ok, vous devriez essayer.
Avec plaisir.
Le manioc,
ouais.
Le haricot, voilà les principales cultures. Et toutes ces cultures sont très vulnérables au déficit pluviométrique. Donc, c'est un grand défi pour le secteur agricole.
Et vous le constatez depuis quand, ces changements?
Ces changements, ça fait deux décennies au moins que les rendements, que le bouleversement climatique a commencé à être vraiment un problème pour le secteur agricole. La chute des rendements est constatée depuis deux décennies déjà, et ça s'accentue, surtout si vous allez dans la partie nord du pays. L'aridité du climat fait que les agriculteurs n'arrivent plus à s'adapter aux nouvelles conditions climatiques.
Et quand vous dites qu'ils ne réussissent plus à s'adapter, ça veut dire que ça se transforme par de l'arrêt, par l'exode?
Oui, on remarque beaucoup d'exodes ruraux, c'est-à-dire que ce sont des populations qui migrent vers les grandes agglomérations. Parce que dans les zones rurales, vous savez, l'agriculture, c'est la principale activité génératrice de revenus. Vu que l'agriculture n'est plus rentable, ces populations sont obligées de migrer vers les grandes agglomérations, notamment à Lomé, pour avoir d'autres activités génératrices de revenus. Et cela a un impact sur la sécurité alimentaire, parce que si les paysans commencent à quitter les villages, on a de sérieux problèmes.
Alors là, je regardais sur le site du ministère de l'environnement du Togo. Bon, il mettait en avant les efforts du Togo pour réduire de 30% son empreinte carbone à horizon 2030.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous savez, les autorités togolaises ont quand même des engagements en termes d'atténuation et de réduction des émissions, notamment l'accord de Paris sur le climat. Le Togo s'est engagé à augmenter ses efforts. L'atténuation, c'est pour pouvoir respecter les engagements du pays. Mais la réalité, c'est que les paysans ont besoin de s'adapter au changement climatique. Parce que c'est une question de survie. En termes d'atténuation, c'est pour respecter nos engagements sur le plan international. Mais il y a une question encore plus urgente, celle de l'adaptation, parce que la sécurité alimentaire du pays en dépend.
Grosso modo, le discours du Togo, c'est « Regardez, on est les bons élèves, maintenant il faut nous aider à s'adapter, quoi, c'est ça ?» Mais s'il y a besoin de beaucoup d'argent pour aider les agriculteurs à s'adapter?
Ça demande vraiment beaucoup d'argent. S'adapter au changement climatique, ce n'est pas seulement vulgariser les bonnes pratiques. Il faudrait mettre à la disposition de ces paysans-là les bonnes semences les plus adaptées. Et qui dit bonne semence, dit en amont faire des recherches. C'est pour cela que le Togo ne cesse de mobiliser des fonds de sources multilatérales. Donc, il y a le Fonds pour l'environnement mondial, il y a le Fonds vert pour le climat, qui sont deux fonds dédiés à la fois à l'adaptation et à l'atténuation. Pour être honnête avec vous, le Togo émet très peu de gaz à effet de serre, vous venez de le dire vous-même. Mais nos efforts en termes d'atténuation, on parle beaucoup plus de compensation carbone. C'est-à-dire que nous misons beaucoup sur la séquestration carbone, c'est-à-dire c'est l'axe principal.
Oui.
En termes d'atténuation, nous voulons utiliser le levier la reforestation, les énergies renouvelables, ce sont les deux axes vraiment.
Alors, énergie renouvelable, comment dire, domestique ou au contraire des villes?
Des villes, des industries, beaucoup de panneaux solaires. Donc là, on s'en va vers, quand on parle d'électrification des zones rurales, on parle beaucoup plus d'installation de panneaux solaires dans des coins assez reculés.
Et le gouvernement togolais a fait une évaluation de ses besoins en termes de ses besoins financiers d'investissement pour...
Oui, ces besoins se trouvent dans le document que nous appelons la feuille de route 2020-2025. Je n'ai pas les données en tête, mais le gouvernement a estimé quand même ses besoins en termes d'atténuation et également en termes d'adaptation au changement climatique.
Alors, est-ce que justement, alors c'est vrai que ces besoins sont loin de pouvoir être couverts par les promesses de financement du Nord. Ceci étant, comment on peut établir aussi des relations de confiance sur le bon usage des fonds?
Moi, permettez-moi, mais je m'inscris en faux par rapport à ces affirmations. Je dois juste vous rappeler que les fonds multilatérales, enfin, les fonds de source multilatérales, pardon, ces fonds-là mettent quand même des garde-fous, ce qui empêche les partenaires de mise en œuvre de grignoter peut-être le budget. C'est une question de volonté. C'est vraiment une question de volonté parce que il y a tellement de garde-fous. Déjà, pour aller accéder à ces fonds, le processus est assez corsé. Ce n'est pas facile. Les pays du Sud n'arrivent pas à accéder facilement à ces fonds-là. Donc, si on parle de crise de confiance, moi, je parlerais peut-être de manque de volonté. Oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on déplace le débat. Ah bah. Ce n'est pas la gestion des fonds qui pose problème, mais c'est l'accès à ces fonds-là qui pose problème. Quand bien même il y a de l'argent qui est mis sur la table, ces pays du Sud n'arrivent pas facilement par rapport aux organisations de la société civile qui sont aussi éligibles à ces fonds. Ouais. Mais le processus est tellement corsé que ces organisations n'arrivent pas à accéder à ces fonds.
Et les blocages, ils se font où? Vous pouvez me les décrire, ces blocages?
Alors, ça dépend de quel fonds vous voulez solliciter. Si ce sont des fonds de source nationale, on va s'adresser au ministère de l'Environnement. Si ce sont des fonds de source bilatérale, eh bien, on ira peut-être vers l'ambassade de France à travers son projet PISCA. Mais si ce sont des fonds, moi, je parle beaucoup plus des fonds de sources multilatérales, notamment le Fonds vert pour le climat, oui, et le fonds pour l'environnement mondial. Donc, ces deux fonds, le processus est assez corsé, comme je viens de le dire. Donc, toute la documentation qu'il faut rassembler pour avoir accès à ces fonds-là, les organisations de la société civile n'ont pas forcément les compétences pour aller chercher ces fonds. Donc, d'où la nécessité d'assouplir un peu les conditions d'accès. Je sais qu'au niveau du Fonds vert pour le climat, ils ont mis en place ce qu'on appelle le processus d'approbation simplifiée pour faciliter l'accès des fonds aux organisations de la société civile. Mais là encore, ils ont mis des garde-fous qui font que l'accès à ces fonds est toujours difficile. Donc, il n'y a pas de crise de confiance, mais il y a un manque de... C'est comme vous mettez de l'argent sur la table, mais vous mettez tellement de garde-fous autour de cet argent pour que les pays du Sud ne puissent pas accéder facilement à ces fonds. Donc, moi, je parle beaucoup plus de manque de volonté plutôt, d'accord, que de crise de confiance. Ouais.
Bah écoutez, nous, il faudra qu'on puisse un peu mieux comprendre les mécanismes, toutes ces choses-là, parce que c'est vrai que dans nos pays, bon, qui sont appelés à être les pays donateurs, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre les réalités. Bon, c'est le but de l'émission, c'est aussi le but de votre témoignage. En tout cas, je remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements au nom de tous les auditeurs d'Aligre FM et des arènes de l'écologie.
Bon, merci, c'est moi qui vous remercie.
On me disait récemment que le Togo était un très beau pays.
Ah oui. Alors, ça, je confirme, c'est un très beau pays, un tout petit pays, tranquille, le paysage est tellement beau, vous devriez quand même faire moi, je vous recommande fortement de faire le déplacement, de venir au Togo, découvrir nos belles régions, nos belles plages, surtout la partie nord du pays est tellement spectaculaire.
Bon, bah écoute Alain, on vous remercie tous et en tout cas, bon courage à vous tous. Et puis, donnez-nous des nouvelles sur le Togo, l'avancée des projets. Et puis peut-être qu'un jour, j'essaierai de faire un reportage chez vos agriculteurs, voir les difficultés, puis aller goûter les ignames.
Ah, ce serait avec plaisir.
Voilà.
Okay.
Bon, merci beaucoup, Alain.
À merci. Bientôt. Bonne journée.
Bonne journée. Et puis, on reste en contact.
Parfait.
Bonne, mais bon, il m'expliquait aussi qu'il y avait des plans de généralisation du transport en commun, d'électrification par le solaire, beaucoup de choses qui sont pas si compliquées que ça à faire, mais bon, il suffit d'une grande volonté, c'est souvent ça qui manque. Bon, on va en revenir, nous, à Air Paris, hein, et puis surtout à nos émissions de CO2 de Parisiens. Est-ce que les émissions des Parisiens sont plus importantes que les émissions des Français en moyenne, Antoine?
Bah alors, c'est compliqué. Moi, je peux répondre de si, en moyenne, les émissions qui ont lieu à Paris, elles sont plus ou moins faibles que celles qui ont lieu dans le reste de l'Île-de-France. Parce que, pour la raison que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que nous, on regarde ce qui est émis dans un territoire donné, on regarde pas tout ce qui est consommé par les gens et les émissions indirectes liées à ces consommations. Donc en moyenne, quand on regarde ce qui est émis par habitant à Paris, c'est en moyenne plus faible, en émissions de gaz à effet de serre, c'est en moyenne plus faible que dans le reste de l'Île-de-France. Pour une raison qui est en fait assez logique, c'est que quand on est à Paris, on a accès plus facilement à des transports en commun, et donc on va moins utiliser de voitures, et donc on va avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Il y a une autre raison, c'est que quand on est à Paris, en moyenne, on est plus souvent dans des appartements que dans des maisons. Et dans un appartement, on va moins chauffer parce qu'on est dans des appartements potentiellement plus petits, avec d'autres appartements à côté qui chauffent aussi, donc c'est mutualisé, etc. etc. Donc ces deux raisons font que les émissions de Paris, quand elles sont ramenées par habitant, elles sont en moyenne plus faibles que dans le reste de l'Île-de-France.
Et est-ce qu'on a une idée, alors parce que ce grand poste des émissions du transport routier, on va peut-être s'occuper de celui-ci ce soir, en plus, vu le temps qui nous reste. Comment il se répartit entre les déplacements de personnes individuelles et puis les transports de marchandises, qui sont des transports de biens, qui sont un petit peu collectifs. Quelle est la part entre justement ces déplacements individuels et ces déplacements collectifs?
C'est une bonne question. Il faudra que je regarde plus en détail. De mémoire, sur l'Île-de-France, c'est à peu près de l'ordre de 2/3, 1/3. 2/3 pour le transport individuel, 1/3 pour le transport collectif. Et il y a un petit quelque chose qui reste sur tout ce qui va être les bus. Donc c'est du transport individuel, mais collectif,
les trottinettes,
etc. Voilà. Mais du coup, dans les transports de marchandises, vous avez à la fois des camions, mais vous avez aussi pas mal de véhicules utilitaires.
D'accord.
Des camions de plus petite taille.
Alors aujourd'hui, le volant de réduction semble être quand même l'usage de la voiture individuelle. Qu'est-ce qui peut aider? Est-ce qu'on peut changer les... Alors ce serait sûrement l'objet d'une émission à part entière, mais qu'est-ce qui pourrait nous permettre de faire moins de kilomètres en voiture? Parce que si on peut... faire quelque chose. Est-ce qu'on... Oui, chaque kilomètre de transport en voiture évité est significatif pour les émissions de gaz à effet de serre?
Alors, oui, en version courte, oui. En version plus longue, en fait, il y a vraiment trois leviers pour baisser les émissions de gaz à effet de serre liées au trafic routier de façon générale. Il y a un levier de décarbonation, un levier d'efficacité et un levier de sobriété. Pardon. Donc la sobriété, c'est moins utiliser la voiture. Donc moins utiliser la voiture, ça peut être soit moins se déplacer, soit se déplacer en transport en commun. Il y a une règle en matière de transport routier, quand on regarde un peu les études internationales, c'est que pour baisser l'usage de la voiture, il faut d'un côté avoir des alternatives, soit des réseaux de transport en vélo, des réseaux de transport ferré, etc. Mais la présence d'alternatives ne suffit jamais. Il faut en même temps des alternatives et des contraintes. Il faut que l'usage de la voiture soit plus compliqué parce qu'il y a moins d'axes de circulation, on circule moins vite, c'est plus cher de se déplacer, etc., etc. Ça, c'est sobriété. Côté efficacité, il y a quelque chose qui marche très bien pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux voitures, c'est avoir des voitures moins lourdes. Il y a une tendance à l'augmentation du poids des véhicules, qui est liée notamment au fait que les constructeurs vont avoir plus de marge sur les véhicules plus lourds en moyenne. Et donc, du coup, plus un véhicule est lourd, plus il va avoir besoin d'énergie pour circuler. Et dans un véhicule thermique, l'énergie, c'est du pétrole. Donc, quand on brûle du pétrole, on émet des gaz à effet de serre. Donc, avoir des véhicules plus légers, c'est émettre moins de gaz à effet de serre par kilomètre parcouru. Et le troisième levier d'action, c'est la décarbonation, c'est-à-dire on conserve une voiture et on change le carburant. Et en fait, ce qui est le plus efficace, hein, nous ce qu'on voit à Paris, c'est quand on passe d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Entre un véhicule essence et un véhicule diesel, il émet un peu moins qu'un véhicule essence, mais c'est quelques pourcents. Entre un véhicule ancien, un véhicule récent, quand il est thermique, il y a des baisses qui vont être de l'ordre de 10-20% en fonction du véhicule, mais c'est assez limité. Par contre, quand vous passez d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, quand vous prenez tout en compte, la fabrication, l'usage, la fin de vie, l'amont, etc., en fait, sur un cycle de vie normal de véhicule, vous divisez au moins par deux les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vraiment un minimum, parce qu'à l'avenir, on va continuer à décarboner la production d'électricité en France, on va finir par décarboner la production des véhicules aussi. Et donc, du coup, vraiment, au minimum, on divise par deux. Et si jamais on prend un transport en commun, c'est encore accéléré, parce qu'un transport en commun, ça fonctionne aussi, alors sauf pour les bus thermiques, mais à l'électricité, ça consomme encore moins d'énergie. Donc, en matière de
d'émissions de gaz à effet de serre... Est-ce qu'on a fait des simulations, par exemple, si le RER B fonctionnait bien, combien d'émissions de gaz à effet de serre on gagnerait?
Alors, c'est possible, mais par contre, je ne l'ai pas fait. Et nous ne l'avons pas fait.
Mais est-ce que
je peux vous donner des chiffres, quand même, si vous voulez.
Parce que moi, ça m'arrive d'être obligé de prendre la bagnole, parce que j'ai tellement marre de risquer de rester en carafe avec mon RER B que, y a des jours, j'ai moins la force que d'autres.
Je peux vous donner des chiffres pour regarder un peu ce que ça donne déjà d'utiliser la voiture ou le transport en commun. Donc là, les chiffres que je vais vous donner, c'est vraiment des chiffres qu'on a produits très récemment, c'est une mise à jour qu'on a faite. Donc tout ce que je vous dis globalement est disponible sur notre site internet. Quand c'est des données produites par Air Paris, on est une asso d'intérêt général, donc tout ce qu'on produit est librement accessible. Quand on regarde les émissions par kilomètre parcouru d'un véhicule thermique, on est entre 200 et 266 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. 200, c'est plutôt sur un véhicule diesel très récent. Et 270, ça va plutôt être sur un véhicule essence très ancien. C'est un peu les deux extrêmes. Tout confondu, fabrication, amont, production des carburants, combustion des carburants. Un véhicule électrique, on va au moins diviser par deux ses émissions. Donc on est aux alentours de 100 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, tout compris. Quand vous êtes dans votre RER ou dans le métro, on va plutôt être de l'ordre de 4 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Et pour vous donner un autre exemple, c'est à peu près le même ordre de grandeur que dans un vélo électrique, un vélo électrique tout compris, fabrication de batterie, etc. On est à peu près à 10 grammes de CO2 par kilomètre parcouru.
Ah, le vélo émet plus que le RER.
En fait, le métro ou le RER, c'est des vieilles infrastructures qui sont amorties depuis très longtemps. C'est vraiment très efficace. Ça ne consomme vraiment pas beaucoup d'électricité pour déplacer une personne. Et ça transporte vraiment beaucoup de personnes. Mais en fait, dans les deux cas, vélo ou RER, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. On compare deux sources d'émissions complètement négligeables.
On a un rapport de 1 à 10 avec la voiture électrique et un rapport de 1 à 25 avec la voiture thermique.
Oui, c'est à peu près cet ordre de grandeur-là. Et du coup, le dernier, c'est quand vous prenez un bus thermique, on est à peu près à 35 grammes de CO2 par passager et par kilomètre. Voilà. Et si vous avez un bus électrique, c'est encore moins. Donc ça vous donne un peu des ordres de grandeur. Quand on passe d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, vous avez une réduction forte. Et si vous passez soit au transport en commun, soit au vélo, vous avez une réduction qui fait que...
Donc ça veut dire qu'on serait capable de se faire son petit projet perso pour la semaine et de compter pratiquement ce qu'on peut économiser comme grammes de CO2 ou comme kilos de CO2.
Oui, complètement. Alors, nous, sur notre site internet, on va bientôt remettre à jour un calculateur des émissions de CO2 liées au transport, justement. On le met à jour parce qu'il y a des données plus récentes. Et alors, si vous voulez faire ça à l'échelle individuelle, pas que sur les moyens de transport, mais sur les consommations et les usages qui émettent des gaz à effet de serre. En fait, le mieux, c'est d'aller sur un site de l'ADEME qui s'appelle Nos Gestes Climat. Et Nos Gestes Climat, c'est à partir des habitudes de transport, de consommation alimentaire. Donc en fait, juste en matière de gaz à effet de serre, en gros, il y a 5 postes. Il y a les transports, il y a l'alimentation, il y a les bâtiments, construction des bâtiments et chauffage, il y a la consommation de biens, tout ce qu'on utilise a émis des gaz à effet de serre lors de sa fabrication, puis on compte un peu à part les administrations, les hôpitaux.
Et on invitera bientôt quelqu'un de l'ADEME pour en parler.
Et du coup, voilà, sur le site Nos Gestes Climat, vous renseignez tout ça, et ça vous dit, en moyenne, sur une année, vous émettez tant. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment d'utiliser ça. Tous les leviers d'action ne sont pas accessibles à l'échelle individuelle, mais c'est d'identifier quel est son impact sur le climat, et derrière, pour pouvoir comprendre ce que, soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle collective, ce sur quoi...
Non, mais on a quand même un impact, c'est ça que je retiens de votre exposé, c'est qu'il y a quand même des moyens d'agir, alors il faudra peut-être mieux les identifier. Mais même si on sait que le climat global va nous échapper, mais malgré tout, on peut quand même on peut changer un petit peu nos comportements et puis être efficace, quoi.
Oui, complètement. Vous avez rappelé tout à l'heure un peu la différence d'émissions de gaz à effet de serre entre un habitant du Togo et un habitant français. Nous, en France, nos émissions par habitant, selon le service statistique du ministère de la Transition écologique, on est entre 9 et 10 tonnes de je dis CO2 à chaque fois, mais c'est un raccourci. Hein. C'est CO2 équivalent, c'est pour compter tous les gaz à effet de serre. On est entre 9 et 10 tonnes de CO2 équivalent par habitant. Dans le monde, en moyenne, on est à 6 tonnes. Donc certes, la France est de population, donc en fait on dit souvent la France c'est 1,2-1,1% des émissions mondiales, mais en fait par habitant, un Français émet en moyenne plus que la moyenne de la population. Et surtout, quelque chose qui est très important à rappeler, c'est que quand on prend tous les pays qui émettent chacun peu d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire moins de 2%, en fait l'ensemble de tous ces pays c'est 35% des émissions mondiales. Et les émissions mondiales, il ne faut pas juste les baisser de 3-4%, il faut les diviser au moins par 5.
C'est extrêmement mal distribué et très inégalitaire, cette question des émissions.
Toutes ces informations, elles sont disponibles.
Alors, exactement. Donc, nous, ce qu'on a sur notre site internet Air Paris, c'est toutes les informations qui sont propres à l'Île-de-France. C'est-à-dire tout ce qu'on va émettre commune par commune en Île-de-France. On a une part sur les émissions. Et tout ce que je vous ai dit sur les émissions de gaz à effet de serre, vous les avez aussi sur les émissions de polluants de l'air, ce qui est nocif pour la santé. Et tout ce que j'ai pu dire sur les émissions individuelles en France, c'est des chiffres qui sont produits par le service statistique, le SDES, le service statistique du ministère de la Transition écologique, qui fait chaque année une évaluation de l'empreinte carbone par habitant de la France et qui publie ses émissions. Et le dernier point, c'est que si vous voulez la même chose que ce que nous on fait pour l'Île-de-France à l'échelle de la France entière, vous avez une organisation qui s'appelle le CITEPA et qui fait le même travail.
Oui, qu'on a déjà invité.
Et si vous avez l'idée saugrenue de déménager et de ne pas rester en Île-de-France, il y a une association comme la nôtre qui fait le même travail que nous dans chaque région de France et qui généralement s'appelle Atmo quelque chose. Donc ça va être Atmo Normandie, Atmo de France, etc.
Mais qui s'occupe même des pesticides, de la pollution de l'air par les pesticides, et on en parlera dans nos prochaines émissions.
On surveille aussi les pesticides dans l'air ambiant francilien.
Oui, alors plutôt en périphérie d'Île-de-France, j'imagine.
Pas que, on en retrouve aussi au cœur de zones urbaines. Mais bon on pourra parler plus en détail.
Un sujet bien différent. Écoutez, je crois qu'on a débordé, qu'on a mangé la deuxième pause musicale. On va... Que veux-tu dire, Ben ?
Une pause musicale.
Ah, tu veux une pause musicale ?
Ouais,
bon, allez, on envoie la pause musicale. Yes.
sponges. Ya no be willing bustling again. Ya no be chill you move yes.
Eh bien, on est toujours dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Alors, la programmation musicale cette semaine était assurée par Brume Delaunay. On va rapidement, puisque le temps nous est compté, vous annoncer les sujets des prochaines semaines. Alors, les prochaines semaines, les trois prochaines, ce sera consacré à des rétrospectives 2024, l'année écologique 2024, les faits marquants. Écoutez, chacun de nos invités nous diront ce qu'ils ont retenu comme actualité de leur point de vue, de leur point d'observation. Et puis, pour le mois de janvier, on a déjà prévu... Alors, la première émission sera un retour de Bakou, mais nos amis qui étaient partis à vélo, Guillaume Autrage. La deuxième semaine, la deuxième émission, le 15, si je ne me trompe pas, ce sera consacré au programme 2025. 2025, demandez le programme écologique. Et puis, on aura... Pour les deux prochaines émissions, le retour de bâton, le backlash, comme on dit maintenant, la question se posera parce que ce sera le moment où notre ami Trump prendra son pouvoir aux USA et donc comment pouvoir résister, comment se préparer à affronter ce fameux retour de bâton qui s'annonce plutôt sérieux, quoi. Et donc, on va se... voir avec les uns et les autres comment on peut faire. Eh bien, là, bonne semaine et à bientôt. Et joyeuses fêtes.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.